Les veilleurs de l'info.
Les jeunes éclairent l'info.
Pour ce second plateau radio, nous allons nous intéresser au rôle des journalistes et des médias d'information aujourd'hui.
Pour répondre à nos questions, nous recevons Stéphane Iglesi, journaliste à Radio France, Emmanuel Riondé, journaliste pigiste travaillant notamment pour Mediapart, Médiacité et le courrier de l'Atlas, Alexandre Fontaine, journaliste et AED au lycée professionnel du Mirail, et Pierre Bizalion, dessinateur de presse. Merci à tous les quatre.
Ils sont interviewés par Leslie, Zakaria et Fatima.
Mais d'abord, on écoute le micro-trottoir réalisé par les élèves au lycée professionnel du Mirail.
C'est quoi pour vous le rôle du journaliste ?
C'est d'informer la population sur ce qui se passe dans le monde de manière objective, c'est-à-dire sans prendre parti. Voilà.
C'est quoi pour vous le rôle du journaliste ?
Le rôle idéal ou aujourd'hui ?
Idéal.
De critiquer les pouvoirs.
Que pensez-vous des médias d'info ?
Enfin, moi, je pense que c'est une lame à double tranchant parce qu'à un côté, ça permet d'élargir notre culture et notre savoir. D'un côté aussi, ça permet la diffusion de la haine, tout simplement.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que les journalistes sont, de nos jours, ils sont encore utiles ?
Oui, moi, je pense que les journalistes de nos jours sont encore utiles pour avoir un esprit critique, mais aussi pour garder cette notion d'humanité plutôt dans la société.
D'accord. Merci.
Enfin, je vais vous poser une première question, c'est les journalistes sont-ils encore utiles ?
Ah oui, moi je pense qu'ils sont encore utiles à la société. Ils nous relatent les faits d'actualité tels qu'ils se passent. Peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins associés à des chaînes ou des partis politiques, mais s'il y en a pour tous les goûts, ça...
C'est quoi pour vous le rôle du journaliste ?
Le rôle du journaliste, c'est d'informer, d'enquêter, de vérifier si ces informations sont bonnes et puis de réagir en direct au mieux pour prévenir les gens de ce qui se passe.
Ok.
C'est quoi pour vous le rôle d'un journaliste ? Ben déjà, le rôle d'un journaliste, c'est d'informer les citoyens et de donner de bonnes informations et de vraies informations et de ne pas être la cause de problèmes.
Et les journalistes sont-ils encore utiles ?
Oui, même si leur vocation est un peu masquée par plein de médias indépendants et de gens qui s'improvisent journalistes. Donc le journaliste tel qu'on le connaît, c'est quelque chose qui s'efface un peu devant les nouvelles méthodes d'information, je dirais.
D'accord.
Qu'est-ce que vous pensez des journalistes de nos jours ?
Les journalistes de nos jours, en fait, le métier... Il est ambitieux, il est bien, le métier. Il y a pas mal de jeunes en quelque sorte qui veulent en quelque sorte faire carrière dans ce métier, mais ils sont bouffés par les grands groupes. Les grands groupes, ils monopolisent tout.
Bonjour, monsieur Iglesis. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier de journaliste ?
Alors, moi, je l'ai fait totalement par hasard. En fait, je voulais être. Au départ, instituteur, puis professeur de lettres, de français. Mes parents, j'étais pourtant dans une famille très favorisée, m'ont dit que les études de lettres, ça ne conduisait à rien. Et non seulement ils m'ont dit ça, mais ils m'ont coupé les vivres. C'est-à-dire, ils m'ont enlevé tout argent en me disant, si tu fais autre chose que la préparation à l'ENA et à Sciences Po, tu n'auras pas d'argent. Tu te débrouilles tout seul et tu t'en vas. Je leur ai dit, eh bien d'accord, je vais faire ça. Donc j'ai fait des études de lettres à Paris 8, qui est l'université de Vincennes, qui est maintenant à Saint-Denis. Je venais d'une famille qui était à droite, qui était une fac quasiment à l'époque d'extrême gauche. Je me suis beaucoup amusé là-bas. J'ai appris beaucoup, j'ai eu des profs géniaux. J'ai fait un doc de lettres, mais alors on est toujours rattrapé par la patrouille parce que quand j'avais 14-15 ans, donc pas loin de votre âge, j'avais vu une émission à la télévision avec un journaliste de l'Obs, enfin ce qu'on appelait à l'époque le Nouvel Observateur, qui s'appelait Guy Sidbon. Et on lui avait posé la question à la télévision, et moi ça m'avait beaucoup marqué, pourquoi êtes-vous devenu journaliste? Et il avait répondu, écoutez, honnêtement, je ne sais pas faire grand-chose, j'écris pas trop mal, et j'ai envie de raconter des histoires. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai dit, eh ben, c'est exactement ce que je voudrais faire. C'est-à-dire, j'adore raconter des histoires, donc j'ai eu envie d'en raconter pour de vrai. Et donc c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Je suis rentré par la petite porte, j'étais garçon... À l'époque, on disait garçon de bureau, c'est-à-dire un emploi de merde. Enfin, pardon de cette expression, mais c'était ça. Je découpais des dépêches, parce qu'à l'époque, les dépêches n'arrivaient pas sur un écran d'ordinateur, mais c'était des papiers qui défilaient en permanence par rouleau. Il fallait classer ces dépêches et les emmener dans les différents services. En l'occurrence, j'avais trouvé un job étudiant au Figaro. Le Figaro m'a demandé ce que je faisais. Je n'ai pas trop précisé quelle était la couleur politique de l'université dans laquelle j'étais, mais je leur ai dit que je faisais des études de lettres. Ils disent « Ah, ça nous intéresse, tu vas pouvoir aider comme ça des journalistes à nous qui sont un peu fatigués et qui ont besoin d'avoir des gens qui vont sur le terrain pour eux. » Donc j'ai commencé à faire des petites enquêtes, j'allais faire les interviews que je donnais à un grand journaliste qui les réécrivait et qui les publiait à l'époque dans le Figaro Magazine. Je faisais le grand écart. Le matin, en gros, j'étais dans une fac d'extrême gauche. L'après-midi, j'étais quasiment dans un journal d'extrême droite, parce qu'à l'époque, le Figaro Magazine était vraiment très, très à droite. Et la même actualité vue le matin à Vincennes et l'après-midi au Figaro Magazine, je vous assure que c'est très formateur. Parce que ce sont deux points de vue totalement opposés, donc ça amène à faire des synthèses. Et puis petit à petit, comme ça, je suis rentré par hasard aussi à Radio France. D'abord au Figaro Télévision, qui était le supplément télé du Figaro. Et puis après, à Radio France, puisque je m'occupais des pages radio, j'ai rencontré des gens sympathiques qui s'occupaient de la radio jeune de Radio France, qui n'était pas le MOUV comme aujourd'hui, ou MOUV, mais qui, à l'époque, qui était uniquement en région parisienne, s'appelait Radio 7. Et c'est comme ça que j'ai découvert la radio dans un stage d'observation. Et je n'aurais... On va être honnête, je n'aurais jamais dû devenir journaliste.
Donc c'était plus naturel pour vous de devenir journaliste?
Finalement, oui.
Et vous, monsieur Riondet?
Moi, j'avais envie de voyager. J'aimais bien écrire. Je m'intéressais à la politique. Et puis j'ai beaucoup lu, moi, très tôt. J'ai beaucoup lu Jack London. Voilà. Donc moi, j'étais pas mal nourri de ça, de ces idées un peu de journalisme un peu aventurier, tout ça, tout ça. Et donc j'ai eu l'occasion de partir à Madagascar, faire mon service. À l'époque, il y avait le service national civil. Donc loin, avant Internet, c'était un autre rapport aussi à la temporalité, à l'échange, on partait. Un peu, voilà. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et quand je suis rentré là-bas, j'étais pas un très bon élève, moi, à l'école. J'étais un peu, voilà, pas trop. Donc c'est pour ça que j'étais parti faire mon service assez tôt. J'en avais un peu marre, j'avais eu mon bac, j'avais fait une année de fac ici et je suis parti. Sans trop savoir ce que je voulais faire. J'hésitais entre des métiers qui auraient pu me faire bouger. À l'époque, c'était un peu aussi le début de l'humanitaire. Il y avait possibilité de faire des écoles d'humanitaire à Bordeaux, tout ça. Bon. Et puis là-bas, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au Proche-Orient. Et donc, il y avait eu, là, à l'époque, c'était 93, les accords de paix. J'avais suivi ça de très près en lisant la presse là-bas, depuis Madagascar. Il y avait aussi la dimension politique qui m'intéressait en journalisme. Donc, c'était un peu un métier qui pouvait éventuellement réunir tout ça. L'envie de bouger, d'écrire et de mettre un peu le nez dans les affaires politiques. Et quand je suis rentré, n'ayant pas de diplôme, j'ai essayé de voir comment je pouvais. J'avais l'envie. C'est important, c'est un des trucs les plus importants. Quand on fait quelque chose, au début, ça ne suffit pas, mais voilà. Et j'avais un copain donc, qui était au Villefranchois et qui m'a pris en stage. Et après, j'ai eu l'occasion un peu de repartir en Algérie. Donc, je suis monté à Paris pour essayer de proposer des articles. J'ai eu la chance de faire un stage à Libé par quelqu'un que je connaissais qui m'a fait passer un mois en stage. Donc, ça a été une bonne expérience. Et après, à partir de là, j'ai bossé par des réseaux divers et variés. J'ai pu bosser 6 mois dans de la presse municipale, qui n'est pas vraiment de la presse, mais c'était en banlieue parisienne, mais c'était quand même un petit journal, j'apprenais des trucs. Un peu de presse militante dans une revue qui s'appelait Pour la Palestine, qui s'intéressait à ce qui se passait en Palestine. Et donc là, j'avais affaire à des journalistes chevronnés en matière de géopolitique. Donc là, j'ai beaucoup appris avec eux sur problématiser et tout ça. Ça, c'était intéressant. Et puis après, j'ai décidé qu'il fallait se former. Donc j'ai trouvé un contrat qualification avec un petit journal qui s'appelait Futur. Après, c'est devenu Regard. Voilà. Et donc là, j'ai fait un contrat qualif de 2 ans et là, j'étais journaliste. Donc ça n'a pas été par hasard, c'était une envie, mais qui n'est pas arrivée au berceau. Ça m'est arrivé à 20 ans en voyageant, en me disant que c'était un métier qui pouvait faire coïncider beaucoup de choses qui m'intéressaient. Mais ce que disait tout à l'heure Stéphane, je ne sais plus où tu avais entendu ça, mais le gars qui dit « je ne sais pas faire grand-chose, donc je peux être journaliste ». Enfin, c'est pas vrai, mais il y a un peu de ça dans notre métier quand même des fois. Après, ça n'empêche pas de le faire sérieusement, de se former, et c'est quand même un métier, c'est un vrai métier. Et voilà.
Et vous, monsieur Fontaine, pourquoi vous choisir de
vers ce métier de journaliste ?
Ah, pour ma part, c'est un peu la même chose. C'est le hasard qui m'a amené par là. Professionnellement, j'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais tenté les écoles de radio, mais à plusieurs milliers d'euros l'année, c'est un peu compliqué financièrement. Et j'ai eu la chance en 2017 de retourner sur mon île à La Réunion. Et j'ai découvert qu'une école de radio s'était ouverte. On proposait justement un trait d'examen. On était rattaché à une autre école à Paris. Et on proposait soit le cursus animateur, soit journaliste. On tente, sans grande conviction, ça passe. Et j'ai la chance d'avoir un directeur d'école qui est ancien rédacteur en chef de la première sur différentes îles et aussi rédacteur en chef à Paris, c'est monsieur Jean-Pierre Germain. Et cet homme est passionné. Il a une flamme et la petite braise qu'on a en soi, en fait, il l'a fait brûler, il l'a fait vivre. Et c'est comme ça, du coup, qu'on se lance dans le journalisme. On découvre le journalisme radio, le terrain, l'actualité. C'est une succession de hasards, de choses qui m'a amené à devenir journaliste et à aimer ce métier aujourd'hui.
Et vous, monsieur Pierre Bizanlion ?
Moi, c'est un peu différent des autres parce que j'ai été journaliste. Effectivement, j'ai eu la carte de presse. Je précise que par rapport à mes autres collègues ici présents, je suis dessinateur avant tout. J'ai bien aimé tout ce qu'ont dit les précédents intervenants, à savoir que c'était du hasard. Ben, moi aussi, c'est du hasard. J'avais des idées et je les fixais avec le dessin, alors que je n'ai pas fait d'études de dessin. Hein. J'ai fait plutôt des études de communication, publicité. Et donc, je faisais ça pour faire rire mes copains, quoi. Et en fait, il y en a certains qui m'ont dit « mais tu devrais proposer ça à un journal ». Et j'ai proposé ça à un journal, et ça a commencé comme ça, et depuis, je n'ai pas arrêté. Je me retrouve dans ce que disent mes collègues, à savoir qu'on raconte des histoires et on fait passer des idées. Et donc, le dessin est un moyen très simple de faire passer une idée. Alors, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, je ne sais pas. Mais j'ai un trop plein d'idées et j'ai besoin de les faire passer. Alors, j'étais un piètre écrivain, donc j'aurais pu les écrire. J'ai pas une voix radiophonique, donc je ne pouvais pas m'exprimer sur la radio, même si j'ai fait de la radio à une époque et j'ai adoré ça. Le dessin est venu naturellement.
Merci pour vos réponses.
Monsieur Hollandais, c'est quoi pour vous la liberté d'expression et d'informer ?
Alors, la liberté d'expression et d'informer, c'est la possibilité de donner les informations et de raconter ce qui se passe de façon la moins contrainte possible. Donc, c'est pas garanti partout de la même façon. Autour de la planète, il y a des pays où c'est pas possible, d'autres où ça l'est, plus ou moins, ça évolue. Il faut y veiller, il faut être attentif à ce que ça dure, parce que c'est, à mon avis, très important. Les journalistes, on a une utilité sociale. Il ne faut pas du tout se prendre au sérieux dans la vie. Mais ce métier, il a un intérêt, il faut le prendre au sérieux, qui est d'informer. Et informer, c'est quelque chose d'important dans une société, au sens large du terme, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire donner à la population les moyens de savoir ce qui se passe et de se forger une opinion, une idée, un avis sur ce qui est en train de se passer au niveau politique, économique, tout ça. Et ce qu'on peut attendre des journalistes, me semble-t-il, c'est qu'ils donnent une information solide, fiable, vérifiée, recoupée. Voilà, honnête. Du coup, pour moi, la liberté d'expression et d'informer, il faut la garantir pour que les gens qui choisissent de faire ce métier puissent accomplir cette mission-là, qui est une mission d'intérêt public. C'est peut-être assez personnel comme réponse, mais c'est la mienne.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et pour vous, monsieur Fontaine ?
Je rejoindrai déjà en grande partie ce qu'a dit mon confrère. D'autant plus, c'est d'actualité avec la loi Sécurité Globale qui pose toutes ces questions de liberté d'expression, qui pose toutes ces questions justement sur aussi l'importance de notre métier. Et je rajouterai même que l'idée de quatrième pouvoir qui fait qu'on a un impact sur l'ensemble de la société, à l'image des articles qui ont été dévoilés par Mediapart sur justement les soupçons par rapport au ministre Bernard Cazeneuve et ses comptes en Suisse. Et ben aujourd'hui, ça a changé une partie de la structure juridique en France. On a le parquet national financier, on a vraiment un impact significatif. Donc on a besoin de cette liberté d'expression pour dire ce qui ne peut pas être dit, que ce soit volontaire ou pas. Et on met en lumière aussi pas mal de choses, que ce soit sur le plan économique, social, technologique. On peut parler de tout, on n'a pas franchement de limite à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il faut la garantir jusqu'au bout. Alors, pourquoi c'est important ? Je pense que c'est globalement pour tout ça. Pouvoir exprimer, donner la parole à tout le monde, parce qu'on donne aussi la parole aux citoyens, à tous ceux qui nous entourent. Globalement, voilà ce qui est. Je suis un peu vieux jeu là-dessus, mais garder l'idée de quatrième pouvoir aujourd'hui, je pense que c'est un peu en débat au sein de notre corps. Il y en a qui disent non, on n'est pas si important que ça, on ne devrait pas avoir un tel impact. C'est pas pour avoir le melon, mais je pense qu'on a besoin du journalisme pour exprimer tout ce qui est exprimé au quotidien et dans notre société.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et vous, Monsieur Pierre ?
Monsieur Pierre.
Monsieur Gallon. C'est quoi pour vous la liberté d'expression et d'informer ? Et pourquoi est-ce que c'est si important ?
C'est important parce que je pense que chaque personne, chaque individu a le droit de s'informer, a le droit de s'exprimer. Il n'y a aucun tabou. Et le journalisme est un intermédiaire. Il y a deux types de journalisme, je pense. Il y a le journalisme d'investigation qui fait des enquêtes et qui montre les faits, qui essaye de chercher la vérité, qui essaye de rendre compte des événements. Et puis, il y a le journaliste d'opinion qui peut être différent parce qu'il y a des journalistes qui interprètent les faits à leur sauce et à leur parti politique et à leur couleur politique. Et je crois que c'est deux types de journalistes qui sont différents. Moi, je me situe plutôt en dehors des deux parce que j'ai pas l'impression... Oui, j'exprime une opinion par mes dessins, mais j'essaye avant tout de m'exprimer sur des faits qui sont réels. Aujourd'hui sur Internet circulent tellement d'informations de fake news, comme on dit, d'informations qui ne sont pas avérées et qui ne sont pas vérifiées, que c'est très dangereux de s'exprimer très vite sur une information. Ça va trop vite. Il faut prendre un peu du recul sur ce qui se passe, attendre un moment, parce que dans les 10 minutes qui suivent, on peut avoir le contraire de la première information qui a été dite. J'ai l'impression que c'est la course au scoop. Vous savez tous ce que c'est qu'un scoop, c'est-à-dire la première information en exclusivité que la personne va sortir. Et il y a une concurrence chez les journalistes qui est terrible. C'est-à-dire, je veux être le premier à annoncer la mort de machin, la faillite de telle entreprise, et ainsi de suite. Et donc, il y a une mise en concurrence qui pourrait être intéressante, et qui l'est, à mon avis, qui est salutaire, mais qui a aussi ses travers. C'est-à-dire que cette mise en concurrence pousse des gens à avoir des opinions sur des informations qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été avérées. Donc, je suis pour la liberté d'expression, mais il faut la prendre avec des pincettes. C'est une liberté qu'on a, nous, dans notre pays. Et je pense, moi, à tous les dessinateurs d'opinion qui ont été emprisonnés, dont on a cassé les mains, qui ont des procès et qui se retrouvent dans des situations terribles parce que, justement, ils ont exercé cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est trop importante pour qu'on la prenne à la légère. Donc, vérifions l'information et après, exprimons-nous. Voilà.
Merci beaucoup pour votre réponse. Et pour vous, Monsieur Iglesias, c'est quoi pour vous la liberté d'expression et d'informer ?
Alors, la liberté d'expression, c'est déjà d'essayer d'être au plus près d'une information, de la vérifier avant de la donner, d'être honnête, ce qui ne veut pas dire être forcément objectif. Il y a une différence entre l'objectivité et l'honnêteté. Moi, je n'ai pas la prétention d'être objectif parce qu'il y a des situations, des reportages que je peux faire avec des personnes en difficulté. J'ai tendance à refléter leur point de vue, c'est vrai, plus que le point de vue des autorités politiques ou sociales qui doivent s'occuper de personnes en difficulté. Et surtout, la liberté quand même doit être totale. On parlait des choix des sujets tout à l'heure. J'ai la chance quand même d'être depuis longtemps à Radio France, donc je peux proposer des sujets. Et à force, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais au moins un sur deux, on prend les sujets que je propose, et ça, c'est une grande liberté. Après, à la différence d'Emmanuel Riondet, qui a la chance, lui, de travailler pour Mediapart et Mediacité, il peut être pendant plusieurs jours sur une enquête, parce que pour pouvoir faire de la bonne information, il faut avoir du temps. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts comme ça. Moi, on me demande parfois un sujet le matin, pour le midi ou pour le soir. Je pense à un excellent dossier qu'avait sorti Mediacité sur les parkings de la ville de Toulouse. Pour avoir le temps de faire ça, ça veut dire qu'il faut se plonger dans le sujet, aller voir les différents interlocuteurs, retrouver les documents, des documents qui sont parfois cachés et qui sont des contrats passés entre la ville de Toulouse et une société de parking, par exemple. Vraiment, le temps, c'est très important dans l'information pour faire de la bonne information. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est prisonnier d'une espèce d'accélération du temps à cause des réseaux sociaux, à cause d'une rumeur qui peut sortir sur Twitter, par exemple, On va mettre une heure, deux heures à la vérifier. Ensuite, ça peut être une information, il ne faut surtout pas la donner. Il faut prendre le temps de vérifier tout ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, autrement, ça nous décrédibilise totalement. Et donc, la liberté d'expression, elle est totale aujourd'hui à Radio France. Je ne vous aurais pas dit ça, moi, quand j'ai commencé à travailler en 1980, c'était encore le monopole de la radio. La radio était contrôlée par le pouvoir politique, en l'occurrence, quelqu'un dont on a parlé récemment parce qu'il est mort, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'était plus soft que dans les années 60, quand c'était quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais que vous avez peut-être entendu parler en cours d'histoire, du général de Gaulle. De Gaulle considérait, lui, que la liberté d'expression, elle y était, mais que pour rétablir l'équilibre par rapport aux journaux de gauche, le plus souvent qui étaient face à lui, lui, il avait décidé de garder les médias publics, radio et télévision, sous étroit contrôle politique. C'est d'ailleurs comme ça qu'après 1968, un certain nombre de journalistes de la radio et de la télévision publique avaient déploré de ne pas avoir pu faire leur métier correctement, l'avaient dit, avaient manifesté, et un certain nombre d'entre eux ont été virés après mai 68. Et certains ne sont revenus à la télévision qu'en 1981, avec la victoire de François Mitterrand. Et après, nous, on a eu, en fait, tout un tas de strates politiques. Donc, on a eu les gaullistes, ensuite les giscardiens, ensuite les socialistes, avec quelques communistes. En fait, il y a eu une espèce d'équilibre qui s'est établi dans les rédactions, y compris parmi les chefs, parce que c'était les chefs qui décidaient. Les rédacteurs en chef étaient nommés, en général, par le pouvoir politique en place du moment. Jusque dans les années 90, c'était à peu près ça, hein, même avec la gauche, hein. On essayait de faire nommer dans les chaînes des journalistes qui étaient favorables au pouvoir en place. Mais comme il y avait eu des recrutements précédents, en fait, les deux influences s'annulaient, ce qui a permis de trouver la liberté. Ça a été un long chemin quand même à Radio France. Ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille, hein, la liberté qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on nous dit souvent, vous êtes un média d'État. Je dis non, nous sommes payés par vous à travers la redevance. Donc, nous sommes un média public, mais nous ne sommes pas un média d'État, car vous versez de l'argent pour que ces médias publics, Radio France et France Télévisions, puissent exister. Donc, quelque part, c'est vous qui nous payez, ce n'est pas le gouvernement.
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est l'heure des remerciements. Merci à tous nos invités. Emmanuel Ridéan, journaliste, pigiste, travaillant pour Mediapart, Mediacité et le courrier de l'Atlas, Pierre Bisonlier, dessinateur de presse, Stéphane Iglesis, journaliste à Radio France, Alexandre Fontaine, journaliste et AED au lycée professionnel de Mireille.
Merci également à toute la classe de première bac pro, vente du lycée professionnel du Mireille, et à nos professeurs, Mesdames Lacaze, Le Quintrec et Pouillou.
Enfin, merci à Alexandra de Médias Communs et Philippe de la Ligue de l'Enseignement qui ont animé ce projet. Sans oublier la DRAC Occitanie qui a financé les Veilleurs de l'Info. Vous pouvez réécouter notre émission sur Ondes Courtes, la web radio du Libre.
Vous venez d'écouter la première partie de ce second plateau radio autour du rôle du journalisme et de la liberté d'informer aujourd'hui. Retrouvez la suite dans la seconde partie de l'émission.
Tu veux t'amuser tout en te cultivant
avec tes amis, ta famille ou tes collègues?
Republix est fait pour toi.
Mimes, quiz, devinettes sont au rendez-vous.
Tu ne t'ennuieras pas.
Un jeu de société made in France,
100% toulousain.
Pour plus d'informations,
n'hésite pas à aller voir le site internet
Joc Éduc.
Cette émission a été réalisée par l'association Médias Communs Occitanie en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 31 dans le cadre du projet Les Veilleurs de l'Info. Un atelier en éducation aux médias que nous avons réalisé au lycée professionnel du Mirail de janvier à mars 2021. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Le projet Les Veilleurs de l'Info est soutenu par la DRAC Occitanie.